Vous écoutez Delirium Environnemental, le magazine d'information en environnement. Juste avant la pause, on vient d'entendre les Cowboys fringants avec Plus rien. C'est notre façon de les remercier pour cette belle initiative qu'ils ont prise justement.
Quel spectacle!
Pareil, oui, les deux, Nicolas, vous y étiez ce mardi soir au Spectrum Metropolis.
Metropolis, oui. Ça a dégagé une ambiance incroyable de fraternité entre la relève musicale québécoise. J'ai trouvé ça...
Puis pour paraphraser le leader des vulgaires machins, ça faisait du bien de voir du monde qui se préoccupait d'autre chose que du prix du gras.
C'est vrai, parce qu'on se souvient, juste pour remettre les gens en contexte, les Cowboys fringants avaient organisé un spectacle en invitant plein d'amis artistes aussi. Puis tous les fonds sont allés à la crise au Niger, donc pour soulager un peu les populations là-bas, des millions de personnes qui sont exposées à la famine. Un beau bravo à Vulgaire, mais aussi à Vulgaire Machin qui était là, qu'on connaît un peu moins que les Cowboys, mais à Cowboys fringants, donc ils étaient les instigateurs de ce bel événement-là qui a permis de vous amuser tout en contribuant justement.
Peut-être un bravo aussi à Oxfam Québec qui était un joueur majeur dans cette réalisation-là. Il contribue qui va contribuer beaucoup justement à l'apport qu'on va pouvoir donner aux gens du Niger.
On parle d'un mouvement de 300 000 $ en cette soirée, participation des Cowboys, du gouvernement, de Oxfam.
Et c'est la preuve que quand on veut, on peut. Allez, on continue, on enchaîne là-dessus. Quand on veut, on peut. La question de l'autoproduction, moi, je suis la première à dire que c'est ce qu'il nous faut, l'autoproduction. On va tout se mettre riche, ça va être super. De plus en plus, on en parle.
La première. En Allemagne, ça fait des années que je fais ça. Aux États-Unis, la même affaire. En Colombie-Britannique, ils ont déjà commencé. C'est que la première, c'est faire le genre.
OK, pas les premiers, là. Mais c'est parce que, justement, quand on pense aux alternatives qui s'offrent à nous en termes de portefeuille énergétique, rarement on entend parler de ce volet-là qui est l'autoproduction. Production. Peut-être en deux mots, je ne sais pas lequel des deux Nicolas veut nous expliquer. En deux mots, qu'est-ce que c'est l'autoproduction?
Dans le fond, quand on se souvient que suite au tollé sur Roi, on avait identifié là, plusieurs pistes intéressantes. Il y avait entre autres l'éolien, il y avait les énergies vertes, il y avait toute la question d'efficacité énergétique aussi. Et l'autoproduction, je crois, on a plus ou moins entendu parler, ou ça faisait plutôt peut-être partie d'une autre filière qu'on proposait. Dans le fond, ce que ça veut dire l'autoproduction d'électricité, c'est que un individu, un groupe, une entreprise, peu importe qui, pourrait produire elle-même son électricité et vivre de ses propres ressources énergétiques. Maintenant, où ça rentre dans un débat plus provincial ou dans le fond, où ça touche Hydro-Québec, c'est qu'il y a plusieurs places dans le monde où est-ce qu'on a intégré l'autoproduction d'électricité à la production nationale d'électricité. Donc, ce que ça implique, c'est que, par exemple, Nicolas Mainville s'achète un somptueux condominium en plein cœur du centre-ville.
Attention à ma réputation.
Et une réputation de régent. Mais bref, décide, dans un élan, de dire, mais mon Dieu, il y a beaucoup trop de chaleur qui est absorbée par mon toit qui est goudronné, eh bien, je vais mettre des cellules photoélectriques sur le dessus de mon toit pour capter l'énergie solaire. Donc, Nicolas pourrait, s'il voulait, brancher son équipement électronique, ses ordinateurs, ses poêles, bref, n'importe quoi, sur son propre réseau à lui. Maintenant, où ça devient intéressant, c'est si on intègre la production que chaque individu peut faire au réseau d'Hydro-Québec. Donc, tout le monde pourrait produire de l'électricité et, ultimement, la rediriger vers le réseau si jamais on en produit trop, si on en fait plus que ce qu'on a de besoin. Et c'est là où ça accroche, parce que jusqu'à dernièrement, Hydro-Québec était assez opposé à ça, trouvait que c'était compliqué, mettait plusieurs excuses en avant que techniquement ça allait être compliqué, quoi que c'est des excuses que partout dans le monde on a déjà réglées. Et ce qui est intéressant, c'est que, dans le fond, c'est cette semaine que la Régie de l'énergie met de l'avant un scénario pour faire en sorte qu'un règlement passerait dès cet automne, permettant justement à cette autoproduction-là de s'installer au Québec et de faire en sorte qu'un particulier pourrait s'intégrer dans le réseau national. Deux points où ça achoppe. Premièrement, Hydro-Québec, lui, ne veut pas du tout s'intégrer dans le projet au point de payer pour l'électricité. Dans le fond, ce qu'il dit, c'est que...
Donc, il ne voudrait pas racheter les surplus.
Et voilà, par exemple, moi, Sofiane Legendre, si vous voulez produire de l'énergie, produisez-en, mais si vous en produisez trop et que vous la redirigez vers mon réseau, je ne vous l'achèterai pas. Alors que c'était un des fers de lance de l'autoproduction en disant qu'une personne, parce que veut pas, c'est des investissements qui sont assez considérables, de s'équiper en cellules photoélectriques ou d'installer une éolienne.
Une mini-éolienne,
ou il y a des mini-turbines aussi qu'on pourrait mettre à fleur de l'eau, en arrière de son chalet, qui est sur le bord d'une rivière. Et dans le fond, quelqu'un qui veut installer ça chez lui se dit dans sa tête, je vais essayer d'amortir mon investissement sur un certain nombre d'années. Si Hydro-Québec me rachète mon électricité, j'amortis beaucoup plus rapidement que si elle ne me l'achète pas. Donc ça, c'est un premier point. Un deuxième point qui achoppe aussi, c'est le fait que, présentement, on s'entend pour dire qu'un individu pourrait produire 50 kWh d'électricité. Mais par exemple, on pourrait se dire qu'un groupe de personnes qui seraient intéressées à se mettre ensemble pourrait construire une méga éolienne si son 4, par exemple, aurait le droit à 200 kWh.
Ils ont fait ça, les gars.
Mais Hydro-Québec, par exemple, n'est pas encore très, très favorable à cette idée-là,
mais
justement.
Pourquoi? Parce qu'en fait, ils seraient gagnants plutôt que d'investir massivement dans des grands projets. Ils pourraient racheter des petites quantités d'énergie aux particuliers et puis vendre au gros prix de l'électricité qu'ils construisent avec leur gros barrage et leur gros projet.
Mais j'espère qu'avec le boom des prix de l'énergie en Amérique du Nord, Hydro-Québec va un peu se creuser la tête et voir à quel point solutionner les petits embûches techniques qu'on a présentement est tellement rentable quand on sait que le prix est en train de doubler au niveau de l'électricité aux États-Unis.
Mais moi, je suis un peu tannée de me faire dire « Oui, mais vous savez, vous payez tellement pas cher par rapport à ailleurs dans le monde. » Et justement, on n'est pas ailleurs dans le monde, on est au Québec, puis on est bien content d'être au Québec. Mm-hmm. D'autre part, c'est une belle façon d'enrichir aussi les populations une fois qu'on a amorti l'investissement sur notre éolienne. Je sais pas si vous savez, mais quand on chauffe une maison, là, on vient de sauver 100$ par mois. En frais d'électricité qu'on ne paiera plus.
Puis il faut surtout s'inspirer de l'envolée des technologies. Je veux dire, les éoliennes, je le disais, c'était ridicule comparé à ce qu'on est capable de faire maintenant.
Beaucoup plus petit,
je pense qu'on,
compact.
On a un bon exemple à Montréal avec l'éco-centre de Rivière-des-Prairies qui fait déjà de l'autoproduction avec des panneaux solaires et une mini-éolienne. De plus en plus, on va voir ça arriver un peu partout dans le monde. Il faut ouvrir la porte. Il faut que Hydro-Québec enlève ses œillères et puis qu'ils permettent justement à la population en entier de s'intéresser à la question énergétique. Je pense que ça va être un autre dossier.
Si on veut continuer aussi sur la question des panneaux solaires, on se souvient qu'il y a 5 ans, avoir son mètre carré de panneaux solaires, c'est une question de 1000$. Il y a une firme de Toronto qui, l'année passée, a créé une structure semblable à celle de panneaux solaires qui amagasine l'énergie du soleil, mais dans le fond, qui se vend sous la forme de rouleaux de Prolor.
Oui.
Donc, tu es capable d'étendre ça sur ton toit, ça coûte, je pense, le dixième du prix que ça coûtait avant. Et donc, là, on pourrait avoir quelque chose d'intéressant qui ferait que tout le monde aussi serait impliqué dans la question énergétique. Et donc, ce serait peut-être intéressant d'économiser la propre énergie qu'on produit.
En plus.
C'est une autre piste intéressante.
Autre piste, mais là, tu fais comme le pod d'après.
Oh,
on va s'arrêter ici. On va parler dans les brèves du fait, justement, que les énergies vertes ont tellement la cote que c'est le moment ou jamais pour investir. Ceux qui ont de l'argent, c'est le temps de mettre vos billes dans les énergies vertes. Au retour, on va quand même vous parler d'OGM.
Ah oui, donc.
De retour à Delirium environnemental, on est désolé, on va vous le changer, ce pont-là.
C'est vrai qu'il est plate, hein?
Il est pas plate, il est différent, on se croirait dans un ascenseur. Bon, arrêtez de niaiser. Je pense que ça nous mettait tout à fait dans l'ambiance pour ce dossier, ma foi, sujet au mal de cœur pour bien des personnes qui s'y connaissent dans ce dossier-là. Celui des OGM, on sait que de plus en plus, c'est comme un pléonasme, ça pose problème, ce sont-là d'OGM, pour plein de raisons. Notamment, on en parlait plus amplement la semaine passée, on parlait du glyphosate, de Roundup Ready, des différentes appellations de ce pesticide ou de ces OGM vendus par la compagnie Monsanto qui s'occupe entre autres du marché canadien et états-unien.
Mondial, en fait.
Mondial.
80% des ventes dans le monde.
Dans le monde, mais on sait que dans le monde, c'est environ 5 pays qui produisent 99% des OGM. Nous en reparlerons éventuellement. Le dossier avance et d'ailleurs, il a été pris à bras le corps par les fermiers canadiens qui se sont mêlés de cette histoire-là en disant « Mais voyons, ça n'a pas de bon sens. »
Exactement. Puis c'est dû à une étude scientifique, mesdames et messieurs.
Non,
dans Crop Science, une revue de la Crop Science Society of America qui a sorti cet été une étude scientifique, je le rappelle, parce que ça a l'air qu'on cherche bien des études sur le cas des OGM pour vraiment prouver qu'il y a des effets. Alors, cette étude nous dit, écoutez, on a fait une corrélation entre la présence ou la pullulitisitose de la fusariose, qui est une maladie, un champignon qui affecte le blé, et la présence d'OGM Roundup Ready, donc ces OGM qui résistent au Roundup, le dit pesticide produit par Monsanto. à base de glyphosate. Alors, cette étude qui n'ose pas dire, on fait une corrélation directe entre les plants, la présence et l'épandage du Roundup et, la pilulosité de la fusariose.
Ça paraît surtout pas. Hein.
Fait quand même, donne beaucoup de chiffres et beaucoup de matériel aux agriculteurs canadiens.
Donc, on va juste mettre une chose au clair. Pour l'instant, il n'y a pas encore de blé transgénique officiellement au Canada qui est commercialisé.
Il y a des champs de tests, mais non.
Expérimentation, mais pas encore commercialisé. Donc, c'est ce qu'on utilise, le glyphosate qu'on utilise dans le Roundup, qui doit être pour le maïs ou pour le canola, notamment.
Exactement.
Mais ça a quand même un impact, puis on arrive à faire une corrélation entre la fusariose dans le blé voisin des champs de canola arrosés au glyphosate Roundup.
Exactement. Donc, c'est l'utilisation du glyphosate qui provoque des problèmes de santé de d'autres, de plants de blé non transgénique. Et puis...
Est-ce qu'on réussit à faire un lien à cette occurrence-là? Est-ce qu'ils peuvent expliquer pourquoi?
Je pense pas qu'ils vont jusque-là. Vous savez que scientifique étant quand même assez, je dirais, prudent sur les conclusions trop faciles, et c'est important de l'être, je veux dire, on veut pas se faire discréditer ces études, ils ne vont pas jusqu'à expliquer le phénomène, mais ils font quand même une corrélation. Et
donc,
ça, c'est intéressant.
Donc,
en fait, c'est pas les scientifiques qui l'ont fait, mais c'est bien la UPA canadienne, l'Union des producteurs agricoles, mais canadien, ou en anglais, The National Farmers Union, qui s'est mis ensemble et qui a carrément demandé à l'Agence canadienne d'inspection des aliments de reviser, un, l'effet du glyphosate sur les champs de blé, et deux, l'effet retirer les futurs projets utilisant le glyphosate ou tous les plans Roundup Ready pour s'assurer que l'utilisation de ce pesticide et des plants OGM associés ne sont pas dommageables à la culture de blé. Donc évidemment, c'est une étape assez importante dans le gros débat des OGM, puisque si l'Union des producteurs agricoles se met ensemble pour dire, écoutez, l'Agence canadienne d'inspection des aliments ne fait pas sa job en ce moment, vous savez que le même gouvernement, la même dite agence, a déjà investi $1 million dans la création ou les tests du blé transgénique Roundup Ready. Mm-hmm. On voit déjà la neutralité dans le dossier qui est un petit peu douteuse. Eh bien, si l'Union des producteurs agricoles canadiens se met ensemble pour dire, écoutez, faites votre job, ça va commencer à brasser. Puis déjà qu'on sait que le dossier du blé transgénique est extrêmement explosif, puisqu'il y a plusieurs acheteurs internationaux qui ont dit, arrêtez-moi ça, le blé transgénique, c'est pas intéressant. Eh bien, si les producteurs canadiens se mettent dans la partie, je pense que ça va être...
Il faut savoir qu'il n'est pas trop tard pour arrêter le mouvement du transgénique, parce que, comme on l'a souvent dit, les études confirmant les impacts sur la santé des humains ou des animaux qu'on teste viennent des compagnies elles-mêmes qui produisent et donc qui ont un intérêt financier à ce que ces OGM-là soient commercialisés. Mais en fait, ça représente seulement 5% de l'agriculture mondiale et que 90% des OGM sont justement des plantes pesticides. Donc, ils participent à entretenir le problème qu'ils étaient supposés régler. Mm-hmm. Puis on essaie de nous faire croire que ça pousserait dans des conditions extrêmes, on pourrait nourrir le monde avec ça. C'est faux, archi-faux, archi-faux. Fait que tous les arguments sur lesquels c'est fait cette promotion-là de ce génie génétique, entre parenthèses, sont totalement bidons. Un dossier qu'on gardera à l'œil, parce que s'il y en a un, justement, qui est souvent négligé, c'est bien celui des OGM. On doit s'arrêter ici pour tout de suite sur cette question-là. Si vous voulez en savoir plus, bien sûr, au www.radiodelirium.net, vous aurez cet article duquel Nicolas ici vous parlait, ou plusieurs articles desquels il vous parlait. Au retour, c'est le temps des brèves. Enfin, le temps des brèves, parce qu'il y a tellement de nouvelles desquelles on veut vous parler qu'il y en a qu'on va traiter vite, 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 mais ça vaut la peine. Nicolas Milo, qui brise la glace avec
Je me lance avec une bonne brève. Une bonne brève qui est due avec une mauvaise nouvelle. Le passage de Katrina, en fait. Vous savez que Katrina, une fois qu'elle est passée, a fait augmenter l'indice Wilder Hill Green Energy, qui est un indice à la bourse, coté en bourse. C'est l'indice Eco à la bourse de New York. En fait, on a fait bondir de 56 millions de fonds avant Katrina, jusqu'à 129 millions d'investissements pour les énergies vertes. Donc évidemment, c'est une réaction au marché pour se départir de la dépendance au pétrole. Mais il faut dire que c'est des pacotilles comparativement aux investissements dans le pétrole, le charbon et le gaz naturel. Mais malgré tout, c'est une bonne nouvelle.
Sur le retour sur la journée sans voiture, j'ai appris moi cette semaine qu'on investissait pour chaque 5$ qu'on investissait dans les routes au Canada, seulement 1$ si on allait dans le transport en commun. C'est le temps peut-être d'inverser la proportion à l'ère Kyoto, messieurs les
politiciens. Et en plus, ils osent mettre sur leur pancarte sur le bord des autoroutes qui construisent le Québec de demain.
Ben oui, moi aussi, ça me fait toujours rire. On investit vers demain.
Parlant de transport, une petite nouvelle qui a fait les manchettes en début de semaine-là et à laquelle il faut peut-être amener une petite nuance. On a vu une manifestation hier au centre-ville de Montréal pour le train de l'Est, des groupes d'affaires de l'Est de l'île de Montréal qui veulent, dans le fond, un traitement équitable face aux autres banlieues de la région métropolitaine et qui veulent leur train de banlieue, dans le fond, un train qui part du centre-ville et qui s'en irait jusqu'à Repentigny sur une ligne de chemin de fer qui existe déjà, avec, dans le fond, des investissements qui seraient, somme toute, relativement minimes compte tenu de l'achalandage qui serait provoqué. En même temps, il faut faire attention parce que le comité stratégique pour le train de l'Est, c'est son nom, eh bien, est un groupe qui est aussi en faveur de la construction de l'autoroute 25 et du fameux pont qui fait
tant pont 25.
Donc, merci de nous aider pour un côté, mais en même temps, faites attention pour voir plus grand.
Écoutez, Paul Martin qui veut de l'énergie propre, on a vu ça dans le journal Métro du lundi, qui dit, écoutez, on a investi 3,6 millions dans la nouvelle institut canadienne de l'énergie éolienne qui se tient à North Cape. On va le prendre comme une bonne nouvelle, 3,6 millions, est-ce que c'est assez pour développer l'énergie éolienne au Canada?
Eh bien, moi, je vous amène en France. En France, on veut taxer les voitures polluantes. Ben oui, c'est Nelly Olin, le ministre français de l'écologie, qui a imposé une taxe supplémentaire sur les véhicules qui émettent un haut taux de gaz carbonique. En effet, dès le 1er janvier, donc, qui s'en vient, les automobilistes français concernés devront payer 2 euros, donc environ 3 $ par gramme, pour les véhicules produisant entre 200 et 250 grammes par kilomètre de CO2 et 6 $ par gramme pour ceux qui produisent plus de 250 grammes de CO2 par kilomètre. Belle nouvelle, bravo les Français.
On a fait les grammes, ça. Eh bien, Stéphane Dion, ça fait longtemps qu'on en avait parlé. Stéphane,
oui, qui sort de l'époque.
Ministre de l'Environnement
fédéral. Ministre de l'Environnement du Canada, plus pour longtemps, je crois, mais bref. Mais bref, 38 des ministres de l'Environnement de certains pays se réunissaient avant, dans le fond, COP11, la conférence des partis qui va se tenir à Montréal cet automne, à la fin de l'automne,
sur les changements climatiques.
Sur les changements climatiques suite à Kyoto, et qui, dans le fond, devait élaborer les grandes questions qu'on devait traiter. Et en sortie de conférence, Stéphane Dion qui nous a dit qu'il tenterait d'améliorer le protocole de Kyoto. Je vous rappellerai, M. Dion, qu'on n'a pas de plan contre les changements climatiques au Canada. Alors, comment voulez-vous, à partir de rien, essayer d'améliorer quelque chose dont vous n'avez même pas chez vous commencé à dresser les grandes lignes?
En fait, il y a un petit plan, mais le plan est loin d'être battu. C'est le Québec qui est encore moins de plan. Écoutez, je m'en vais dans un plan encore plus plate que ce plan qu'on est en train de parler. Plan Esturgeon. Connaissez-vous ce poisson qui est le fournisseur de caviar? Vous savez que depuis 500 ans avant Jésus-Christ, qu'on mange du caviar partout dans le monde. Eh bien, ce poisson est grandement menacé. En fait, on le savait déjà, mais il y a des nouvelles études qui nous montrent que l'entièreté de toutes les sous-espèces d'Esturgeon sont sur la marge de l'extinction totale. Une étude qui est évidemment inquiétante, malgré le fait que l'esturgeon est protégé par la CITES, la Convention on International Trade and Endangered Species, que je connais pas la traduction, désolé. Mais bon, nouvelle inquiétante que je vous suggère d'aller lire. On va mettre le lien New York Times du 22 septembre. C'est quelque chose à suivre.
Eh bien, une petite nouvelle du côté du Fonds monétaire international. Vous voyez, un de ces grands géants au monde avec la Banque mondiale qui ose dire qu'il va aider les pays en voie de développement en leur imposant des styles de développement qui ne conviennent absolument pas à leur réalité. Eh bien, on se tarde du côté du FMI de dire que nous allons effacer la dette des pays en voie de développement, une entente qui serait de l'ordre de 40 milliards de dollars. Le problème, c'est que pendant qu'on a créé cette dette-là chez les pays en voie de développement, eh bien, on a appauvri, voire exterminé nombre d'écosystèmes et de contextes environnementaux qui étaient propices à la vie dans ces pays-là. Et ça, on ne l'effacera pas.
Mais non, on ne l'effacera pas. L'injustice, ça n'arrête pas comme ça. Une dernière petite nouvelle, on fait la chasse aux minounes en Californie. Les minounes, les vieilles voitures, vous l'aurez compris, bien entendu. Donc, la Californie a investi 4 millions US, bien entendu, dans un programme visant à identifier, réparer ou envoyer à la verraille les voitures qui polluent trop. En Californie, le saviez-vous, les 10% de véhicules les plus polluants produisent à eux seuls 50% de la pollution atmosphérique du parc automobile de l'État. C'est à suivre, mais bravo, la Californie de M. Schwarzenegger.
Une petite dernière, en fait, sur la liste mondiale des sites à protéger qui s'allonge. Vous savez, les hotspots, les fameux hotspots ou les points chauds, c'est les sites où est-ce qu'on retrouve la plus grande quantité d'espèces et la plus grande concentration d'espèces endémiques. et surtout la plus grande concentration d'espèces menacées, eh bien, on vient de sortir une nouvelle liste pour rajouter à certains types d'animaux surtout. Et puis bon, on rajoute à la liste de 25 lieux hotspot, on en rajoute 9 nouveaux pour s'assurer de la protection de la biodiversité et surtout la maintenance des espèces qui sont les plus endémiques. Donc oui, c'est ça. Bravo.
Bravo, on est content. Nicolas Lino, on a vu l'autre.
Ah, ben, je vais brûler mes coups de masse d'abord. Si... Ah, non, mais on va en avoir d'autres. Je suis jamais en manque de coups de masse. Voyez, il y a la petite municipalité de Saint-Mathieu-d'Aricana près d'Amos qui est située sur un esker qui possède une des eaux les plus pures au monde.
C'est quoi un esker, monsieur?
Un esker est une formation géologique due au passage des glaciers. C'est dans le fond un amas de roches rectiligne en dessous duquel souvent s'accumule une certaine quantité d'eau. Et bref, on a un des eskers où on reconnaîtrait que l'eau est une des plus pures au monde. Eh bien, on parle cette semaine dans les médias d'un retard dans le développement de la compagnie OV Bottling Water qui va dans le fond puiser directement dans l'esker pour faire de l'eau embouteillée. Ce qu'on n'a pas le culot de nous dire dans les médias, c'est que l'on n'aura pas une maudite scène pour cette eau-là parce qu'au Québec, on n'a pas encore de plan de redevance sur l'eau potable, ce qui est selon moi tout à fait dégueulasse dans un moment où l'eau potable est un enjeu partout dans le monde.
C'est écœurant, on va devoir en parler toute
la
saison. C'est déjà ce qui va mettre fin au bref pour cette semaine. Au retour, on se fait le plaisir de nos coups de cœur, coups de masse et aussi au calendrier cette semaine. Hey, on est de retour à Delirium Environnemental, dernière partie d'émission, et ça, ça veut dire que c'est enfin l'heure des coups de cœur et des coups de masse.
Eh bien, moi, je continue sur ma lancée, parce que ce que j'ai oublié de vous dire, ce qui est le plus dégueulasse, c'est que c'est la Morgan Stanley, une banque américaine, qui est rendue, dans le fond, le principal investisseur dans cette OV Bottling Water. Et donc, ce qu'on dit, dans le fond, c'est qu'on a quelque chose qui, aux yeux des investisseurs internationaux, est purement rentable. Ça coûte pas une scène, on fait le profit. Et nous, au Québec, non seulement on leur charge pas de maudite scène, mais en plus, on investit même pas là-dedans. Donc, on est contre sur toute la ligne.
Contre sur toute la ligne, et c'est un dossier qu'il faudra garder à l'œil. Un autre coup de masse, une compagnie de Saint-Bruno qui puisait de l'eau dans une source et qui s'appelle Biopur, qui distribue dans plein de commerces au Québec et qui a vendu à des intérêts états-uniens. Alors encore une fois, les États-Uniens vont venir chez nous, pomper notre eau et la revendre au prix fort. C'est écœurant, il est temps, Québécois et Québécoises, même Canadiens et Canadiennes.
Ça va créer 10 jobs dans la région.
C'est écœurant, c'est une machine à scène, puis de toute façon, il faudrait voir jusqu'à quel point on peut faire des ponctions dans des réseaux hydrographiques de certaines régions pour envoyer l'eau ailleurs.
Je trouve que vous monopolisez mon temps d'antenne. J'ai un gros coup de cœur à faire, et puis société québécoise, population en général, sachez que sur cette planète, de plus en plus, il y a un mouvement qui est en train de s'instaurer, le mouvement environnemental, qui est jonché d'obstacles et d'embûches, mais qui est quand même formé de groupes environnementaux incroyables qui mettent une énergie redoutable.
Ils travaillent toutes les 20 semaines.
Les gouvernements sont de plus en plus friqués par l'énergie que les gens mettent. Et sachez qu'en fin de semaine, ici même à Montréal, plusieurs ONG se rassemblaient pour discuter changement climatique. Et sachez qu'ici au Québec, on est garni d'une motte d'environnementalistes qui ont goût de changement. Et je lève mon chapeau à tous ceux et celles qui travaillent pour l'environnement ardemment pour faire de cette société un monde meilleur pour nos enfants et leurs petits-enfants.
C'est beau comme espace, Nicolas Mainville. Merci beaucoup à tous ceux, justement, qui se lèvent le samedi et le dimanche matin pour aller continuer à travailler, faire avancer cette cause qui nous tient tant à cœur.
Je peux pas y aller d'un coup de masse après
ça.
On va y aller dans un deuxième temps. Mais premièrement, je voudrais vous suggérer, dans le fond, une lecture à saveur environnementale. Water Inc. de Varda Bernstein, qui est, dans le fond, un éco-trailer sur le monde de l'eau. Je vous en dis pas plus. Allez vous procurer ça. C'est en anglais présentement. On attend la sortie en français dans quelques mois. Surveillez ça. Je vous dis Water Inc. sur Google. C'est le premier truc qui sort.
Je prends la balle au bon pour vous inviter à nous recommander tout type de romans de science-fiction qui parlent des enjeux environnementaux. Je suis personnellement une lectrice insatiable et je suis toujours prête à lire de nouveaux romans qui abordent ces questions-là. On pourrait même se faire un palmarès à Délirium environnemental des meilleurs romans environnementaux.
Mais Romain, mais moi, je peux suggérer un film.
Ah, lequel?
Sahara, qui vient de sortir en vidéocassette, si vous voulez, qui traite dans le fond d'une problématique de... Dans le fond, on envoie nos déchets dans les pays d'Afrique et on les laisse
c'est
se démerder avec ça.
C'est ça, un
bref, cas,
c'est...
Ben, je vois c'est un cas, mais un
c'est vendredi soir,
entre deux couches, ça faisait du bien.
C'est notre nouveau papa, pardonnez-lui. Coup de cœur, coup de masse au calendrier cette semaine.
Ben, en fait, je veux juste vous rappeler que sur notre site web, vous allez avoir plein d'événements qui sont affichés au www.radiodelirium.net. Dans la section calendrier, au bas de la page, vous allez pouvoir avoir ça. Et surtout, si vous vous inscrivez à la cyberlettre, vous allez recevoir ça direct dans votre courriel. Incroyable. Des gens informés, vous serez.
Très facile pour la cyberlettre. C'est à gauche de l'écran. Vous cliquez sur cyberlettre, vous inscrivez votre courriel et c'est aussi facile que ça. Chaque semaine, on vous envoie donc notre cyberlettre. Qu'on monte avec amour et plaisir, bien entendu. Il y a beaucoup de gros événements environnementaux qui se tiennent au Québec. Il y a des interlocuteurs, des locuteurs, en fait, qui viennent nous parler, entre autres, Ricardo Petrella sera en ville au mois d'octobre. David Suzuki, Hubert Reeves font aussi une conférence dans le cadre de Alerte Climat. C'est des gens qu'il faut vraiment voir en conférence, notamment David Suzuki. Je n'ai jamais vu un orateur comme ça. Ricardo Petrella, enfin, parler de choses desquelles on n'entend pas souvent parler. Il va encore nous parler de la question de l'eau dans une autre perspective, justement, que peut-être commerciale, celle qu'on entend trop souvent. Les événements à suivre, bien sûr, tout ça sera sur notre site Internet au www.radiodelirium.net.
David Suzuki, en passant, qui se verra décerner un certificat, ben, un doctorat honoris causa par l'UQAM très bientôt cet automne. Donc, suivez ça. Oui, en ville.
J'envoie un mini coup de masse aux deux parties officielles. En fait, il y a trois parties officielles de la Ville de Montréal, mais il y en a deux qui mettent des pancartes partout en ce moment. Monsieur Tremblay, Monsieur Bourque, s'il vous plaît, gestion environnementale. Peut-être que ça implique l'utilisation moindre de pancartes polluantes et désuètes après trois jours parce que bourré de graffiti.
Ben moi, je dirais aussi que mon coup de masse serait plutôt par rapport au fait arrêter de me parler de nid-poule. Ce n'est pas un enjeu politique. Ça fait partie d'un grand tout global qui s'appelle un système de transport urbain montréalais. Attelez-vous à la tâche.
Chaque fois que Sofiane Legendre roule ses airs, ça veut dire que c'est
fâché.
C'est la madame à moi, excusez-moi. Hey, c'est déjà la fête de Délirium environnemental en cette belle dernière semaine du mois de septembre. L'équipe bionique de Délirium environnemental en studio avec moi cette semaine, Nicolas Mainville et bonjour. Nicolas Milo. Merci beaucoup d'avoir partagé votre regard sur la chose environnementale. Étienne Côté-Paluc et Claude Théberge à la mise en onde, merci beaucoup. Mélanie Roussel pour ton support, merci beaucoup. On t'entendra plus amplement à l'avenir. Patrick Bonin n'y était pas, mais en pensée, dans notre cœur, il était là comme toujours. Je vous rappelle que vous pouvez aller voir et lire toutes les nouvelles sur www.radiodelirium.net. Moi, c'était Sofiane Legendre et je serai de retour en bonne compagnie la semaine prochaine pour plus de nouvelles environnementales. Tal, 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 tal.
Oui.